Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Ce balado est rendu possible grâce à Nespresso Professionnel. Son exploration était, il n'y a pas si longtemps, réservée aux États les plus riches et les plus avancés de la planète. C'est aujourd'hui une industrie et elle est en pleine effervescence. L'espace, la course à l'espace, est maintenant menée par des entreprises privées. Et le Québec pourrait s'y tailler une place importante. Je m'appelle Laurent Thérien, bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Vous avez peut-être vu ça la semaine dernière. Québec annonçait 450 millions de dollars pour financer un nouveau réseau de satellites dans l'espace. On parle de 600 nouveaux emplois, des retombées économiques évaluées à plus de 2 milliards de dollars. Cette semaine encore, SpaceX, l'entreprise du fondateur de Tesla, Elon Musk, annonçait aussi que ses premiers touristes de l'espace vont décoller dès cette année. Et ça, c'est sans parler des nouvelles de Blue Origin, du fondateur d'Amazon ou encore de Virgin Galactic. Il y a clairement en ce moment une tendance qui se dessine vers la privatisation de l'espace. Et fait peu connu, le Québec a une place enviable dans cette industrie-là. Bachar Elzain, bienvenue à Pour votre info.
Merci beaucoup, Laurent.
Bachar Elzain est le fondateur de Reaction Dynamics. C'est une start-up qui est installée à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, qui lance des fusées, ni plus ni moins, ou plutôt qui s'apprête à le faire. Vous allez comprendre, mais laissez-moi d'abord vous parler de Bachar. Bachar savait dès le primaire qu'il allait lancer des fusées un jour. Il a fondé Reaction Dynamics il y a 5 ans. Avec un but assez simple, mais très ambitieux, lancer des satellites dans l'espace au coût le plus bas possible. Une solution 100% québécoise pour un marché évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars. Son premier lancement est prévu l'année prochaine. Est-ce qu'il y a comme un nouvel âge d'or, Bachar, de l'espace qui est en train de commencer?
Ça fait une quinzaine d'années que ça mijote un peu, si tu veux, mais je pense que c'est maintenant que le travail commence à remonter à la surface, puis que l'intérêt du public a rattrapé le travail des pionniers qui étaient là avant nous, puis qu'ils ont commencé à faire ce travail d'avance.
Pendant la guerre froide, c'était les États, n'est-ce pas, qui s'occupaient de développer notre présence dans l'espace. Là, ce sont de plus en plus des entreprises privées. On n'a qu'à penser à SpaceX de Elon Musk, mais il y en a plein d'autres. La tienne en est un exemple aussi. Est-ce que c'est plus efficace de conquérir l'espace avec le secteur privé qu'avec le secteur public?
Je dirais que c'est différent. Il y a certainement un enjeu d'efficacité qui est mieux servi par une entreprise privée. Il faut notamment noter les coûts, la rapidité, la prise de décision. C'est clair que pour une entreprise privée, c'est beaucoup plus facile à faire que pour un gouvernement public. Il faut dire aussi, l'espace commence à avoir un business case autour de l'espace qui fait en sorte que de l'investissement d'investisseurs privés dans le domaine commence à faire un peu plus de sens, si tu veux.
OK. On va en parler de ce business case-là, Bachar, ensemble. De ce que je comprends, et dis-moi si je me trompe, il y a essentiellement 3 façons de faire de l'argent avec l'espace. Il y a le Earth to Space, donc le fait d'envoyer des choses de la Terre vers l'espace. Il y a le Space to Space, c'est-à-dire des échanges qui se font dans l'espace. Et il y a le Space to Earth, qui sont en fait des télécommunications ou de l'envoi de données depuis l'espace vers la Terre. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ces 3 modèles-là et nous dire là où tu penses qu'il y a le modèle d'affaires le plus intéressant? J'ai une petite idée de ta réponse quand même.
Dans le segment que nous opérons, qui est envoyer des charges utiles, des satellites en orbite ou dans l'espace, C'est le segment qui est, c'est un segment qui est extrêmement stratégique. Il faut absolument avoir une capacité pour envoyer ces satellites-là en orbite. Autrement, tu peux pas opérer, tu peux rien faire. Par contre, c'est un segment qui est très compétitif, relativement complexe. Et puis, c'est pas vraiment là qu'il y a les opportunités les plus accessibles, je dirais. C'est vraiment dans le Space to Earth. C'est toutes les compagnies qui sont déjà... une fois que le satellite est rendu en orbite, puis que le satellite peut générer des données, que ce soit des données d'imagerie optique, télédétection, ou faire de la télécommunication. C'est ce segment-là qui est de loin le plus profitable. Là, je pense, à mon avis, qu'il risque d'avoir beaucoup d'opportunités dans un avenir un peu plus moyen-lointain. C'est vraiment space-to-space. D'être capable d'aller... je vais donner un exemple de choses qui se discutent, puis c'est pas vraiment des idées farfelues. Je connais des entrepreneurs qui font ça,
okay.
Mais pour du minage spatial, donc aller extraire des ressources minières d'astéroïdes pour permettre de construire une colonie qu'on aura par exemple un jour sur la Lune ou sur Mars ou peu importe.
Ah ouais, donc, ça se fait en ce moment là, ça se prévoit en ce moment même.
Il y a du monde qui commence à réfléchir à ça, effectivement. J'ai eu la chance de parler à certains de ces entrepreneurs-là. Je trouve ça vraiment excitant parce que le défi technologique est là. Mais en ce moment, le segment qui est de loin le plus intéressant, celui avec lequel on interagit le plus quotidiennement, c'est vraiment le segment de Space to Earth.
La seconde qu'on utilise, en fait, notre téléphone intelligent, la seconde qu'on se connecte à Internet, la seconde où on demande à Siri de nous donner les directions, on est en train d'utiliser des données de l'espace.
Absolument.
Ouais. Est-ce que le Québec a vraiment des avantages concurrentiels dans cette industrie-là, Bachar?
À 100%. En fait, ça a été une des discussions que j'ai eues très tôt avec des investisseurs aux États-Unis. Qui nous avait proposé des grosses sommes d'investissement pour qu'on déménage là-bas. Autant c'était intéressant, autant j'ai refusé parce que je juge et je considère que le Québec a absolument tous les atouts. Surtout, je parle de la grande région de Montréal. C'est pas parce que je suis né ici puis que je connais quand même pas mal toutes les grosses compagnies qui sont là, puis c'est du monde avec qui on interagit régulièrement. On a une industrie aéronautique qui est très riche. On a une industrie aéronautique qui est très qui est en très bonne santé malgré tout ce qui se passe avec le transport aérien, malgré tout ce qui se passe avec COVID. Mais les connaissances sont là, l'expertise est là. Sauf que c'est pas bon. Le segment spatial de l'aérospatial au Québec est très petit par rapport à l'aéronautique. Le segment de transport spatial, développement de fusées, ces choses-là, c'est inexistant. On fait partie des quelques compagnies qui essaient d'en faire ici. Puis on est, à mes yeux, la compagnie la plus développée au Canada qui fait ça. Je pense que le Québec a une place de choix parce qu'on a toute cette expertise-là, on a toutes les sources d'approvisionnement, toute le supply chain, toute l'expertise, toutes les manufacturiers. Donc, je pense que c'est vraiment une place de choix. Puis, c'est simplement quelque chose qui est en train de se construire pour la partie spatiale. Puis, on est très content d'être là.
Tu parles de réutiliser des chaînes de valeur qui sont déjà existantes. Moi, j'y vois là une opportunité extraordinaire de sortie de crise pour toute une industrie qui a reçu tout un
Absolument.
Coup avec la diminution des vols civils, là, de l'aviation civile. Est-ce que le marché de l'espace peut en quelque sorte venir au secours de l'industrie aéronautique un peu plus traditionnelle?
Nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on a réembauché certains ingénieurs qui avaient été mis à pied par des compagnies en aéronautique. C'est des gens extrêmement qualifiés, extrêmement compétents. Il y a quand même beaucoup d'expertise qui peut être recyclée, beaucoup de connaissances qui peuvent être prises pour permettre vraiment à ces gens, vraiment les personnes, you know, les personnes du quotidien, monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans l'industrie aéronautique, d'être capable de recycler son savoir dans une industrie qui est connexe, sans nécessairement avoir à changer de domaine ou déménager ou partir ailleurs.
Bon, ben on le souhaite en tout cas. Il y a beaucoup de compétition dans ce domaine-là. On ne va pas se compter de menterie. Bachar, il y a Virgin qui est dans ce segment-là. Il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on peut se démarquer? Et il y a de la place pour combien d'entreprises vraiment dans cette industrie-là? Certainement pas des centaines.
Non, certainement pas. Il y a une centaine de compagnies dans le monde qui essaient de développer des micro-lanceurs pour fournir des services de lancement pour des satellites. À mon avis, il y a de la place pour 5 à 10 compagnies, pas plus que ça.
C'est pas beaucoup,
la
là.
La façon comment, vraiment pas, mais ça devient beaucoup plus rude et beaucoup plus féroce comme compétition quand t'as pas de technologie avec laquelle tu te démarques. Et c'est ce que nous on fait, puis c'est pour ça que je te dis, je m'inquiète pas de la compétition. Nous, si on est capable de faire ce qu'on est supposé de faire, on n'aura pas à s'inquiéter de ces gens-là.
On revient dans quelques minutes. Il y a une expression que j'aime beaucoup pour décrire la posture du dirigeant d'entreprise. Un bon leader devrait avoir la tête dans les étoiles et les deux pieds sur terre. C'est Sophie Brochu d'Hydro-Québec qui dit ça souvent. Laissez-moi vous ramener les deux pieds sur terre, donc, avant qu'on retourne ensemble dans l'espace. Je veux vous parler d'environnement et surtout de l'engagement en environnement de Nespresso, qui a souvent été critiqué pour ne pas en faire assez pour l'environnement, alors que ces programmes, en fait, sont très avancés. Leurs capsules sont d'abord en aluminium, qui est recyclable à l'infini. Le marc de café, donc le café à l'intérieur de la capsule, est utilisé comme fertilisant sur des terres agricoles, notamment celles du Québec. Mais Nespresso a aussi un programme d'approvisionnement international avec Rainforest Alliance. C'est un programme qui fait en sorte que chaque grain de café est cultivé en respectant l'environnement, mais aussi les communautés qu'il cultive. Et finalement, Nespresso s'est engagé à ce que votre tasse soit neutre en carbone d'un bout à l'autre de la chaîne logistique d'ici la fin de l'année. C'est une pas pire façon d'avoir les deux pieds sur terre. On retourne aux étoiles. Maintenant, on va faire un exercice ensemble, Bachar. Je suis un enfant de 4 ans, disons, peut-être 5-6 ans. Je vais te poser plein de questions en rafale, plein de questions qui me trottent dans la tête et je suis convaincu que tous ceux qui nous écoutent se les posent aussi. Alors, quand vous dites que vous lancez des petits satellites, sont gros comment les satellites que vous lancez?
C'est des satellites qui pèsent entre 30 à 100, 150 kilos. Comme une laveuse-sécheuse, si tu veux. C'est à peu près dans ces eaux-là.
OK, intéressant. Donc, une constellation de laveuses-sécheuses autour de la Terre. Il y en a combien de ces satellites-là présentement en orbite autour de la Terre?
Une couple de mille, en fait.
Okay.
Une couple de mille. L'année dernière était l'année où il y a eu le plus de lancements. Je pense qu'il y a eu à peu près 1000 satellites qui ont été lancés juste l'année dernière. Puis on anticipe qu'il va y avoir entre 10 à 15 000 satellites en attente de lancement au cours des prochaines années.
Vous vous dites qu'un jour, ça va être aussi simple d'envoyer un satellite dans l'espace que de commander quelque chose sur Amazon ou presque. J'exagère, mais vous voyez l'idée. Combien ça peut coûter envoyer un satellite dans l'espace?
C'est une excellente question. Je vais te répondre de la façon la plus courte et concise. C'est qu'il y a deux façons. En ce moment, si tu as un petit satellite que tu veux envoyer en orbite, il y a vraiment deux façons de s'y prendre. Soit que tu décides de prendre le bus, tu as un petit satellite qui prend une petite place dans un bus qui peut remplir 60 places, si tu veux.
Okay.
Soit que tu prends taxi. Le taxi, c'est une fusée qui est conçue spécifiquement pour lancer des petits satellites, exactement comme la nôtre. Donc, ça t'offre un service spécifique. Ça te ramène à l'orbite que tu veux. Ça te ramène à l'inclinaison que tu veux. Ça te permet de lancer quand tu veux parce que les satellites, il y a des fois des problèmes. Des fois, il y a des corrections à faire. Des fois, il y a des choses à réparer, des petites erreurs qui ont lieu. Mais quand tu as 60 satellites à lancer, ben quand il y en a un qui a des erreurs ou qui a de quoi, qui a besoin de gosser dessus, ben ça ralentit tout le monde, ça traîne tout le monde. Donc, c'est pas cher aller dans le bus. C'est quand même pratique. Par contre, tu as beaucoup d'attentes, tu as beaucoup de codépendance qui font en sorte que les délais sont infernaux. Par contre, prendre le taxi, ben ça coûte cher. Si tu veux prendre le bus, ben ça va te coûter entre 5 à 20 000 $ par kilo de satellite lancé. Si tu veux prendre le taxi ou une fusée dédiée, ça peut coûter n'importe où entre 50, ça peut monter jusqu'à 100 000 dans certains cas. Donc, jusqu'à 100 000 $ par kilo de satellite. Ça, c'est la métrique utilisée vraiment pour les lancements de satellites. Donc, ça te coûte combien de dollars par kilo de satellite lancé? En gros, c'est...
C'est comme bon, ça que vous le calculez dans votre industrie, je le comprends. Donc, vous êtes où? Vous êtes dans l'autobus ou vous êtes dans le taxi ou vous êtes dans le taxi plus?
Ce qu'on offre, c'est d'offrir le service de taxi, mais au même prix que tu paierais pour le bus. Donc, nos compétiteurs offrent le service de taxi, mais tu payes pour le taxi. Nous, vu qu'on utilise un nouveau type de système de propulsion hautement simplifié, ça nous permet de réduire les coûts de façon dramatique. Donc, on peut se permettre d'offrir à nos clients un service de taxi, mais pour le même prix qu'ils paieraient pour aller chercher le bus. Donc, ça permet d'offrir le meilleur des deux mondes. Ils se retrouvent pas dans la position où ils ont un choix à faire. Est-ce qu'on va aller chercher le service qu'ils nous font chercher le service qu'on peut se permettre de payer. Ils ont les dents avec nous. Donc, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on vise. Donc, c'est, en gros, pour donner un chiffre, on vise entre 13 à 17 000 $ par kilo.
OK. Grosse différence quand même. De 100 000 à 13 à 17 000, ça devient intéressant. Là, vous n'en avez pas encore lancé de ces satellites-là. Vous êtes encore, je dirais, en phase de préparation au décollage. Votre premier lancement, il est prévu quand et il est prévu où? Est-ce qu'on va avoir des satellites lancés dans l'espace à partir de Saint-Jean-sur-Richelieu?
Peut-être pas à partir de Saint-Jean, mais certainement à partir du Canada. Faut pas oublier, pour avoir une base de lancement de satellites, il faut qu'on soit proche de l'eau. Il y a des fois des problèmes qui arrivent sur des fusées qui décollent. Donc, tu veux t'assurer que ça soit pas fait par-dessus une zone habitée. Tu veux t'assurer que ça soit pas par-dessus. Donc, tu essaies de le faire le plus loin possible. Puis, généralement, ça se fait aux bordures de l'océan. Donc, il y a quand même certains sites au Canada qui sont actuellement en cours. On a l'opportunité d'être capable de lancer à partir de Norvège, à partir d'Australie. On a même des ententes qu'on est en train de négocier avec les États-Unis. Comme ça, peu importe ce qui arrive, on va être capable de lancer et on ne sera pas dépendant du site de lancement en particulier. Puis ça, c'est une des choses qui est importante pour nos clients parce que actuellement, les délais d'attente, si tu as un satellite qui est prêt, tu peux attendre jusqu'à 2 ans, 3 ans avant que tu puisses avoir une place sur une fusée. Donc, nous, on va être capable d'être indépendant du site de lancement pour qu'on puisse lancer d'ailleurs, comme ça les clients n'ont pas besoin d'attendre. On vise à avoir une première démonstration de vol l'année prochaine, donc en 2022. On est en train de faire une ronde de financement actuellement. On a reçu une grosse subvention l'année dernière, une grosse contribution de l'Agence spatiale pour supporter le développement de nos moteurs. On avance à très grands pas. On a fait quand même beaucoup de progrès là-dessus. Puis on est supposé faire des tests dans les quelques prochaines semaines. Mais on vise faire un premier lancement dans environ un an. Donc, en 2022, en fait,
mi-2022. OK, c'est bien noté. On veut être là. Ou en tout cas, on veut y assister d'une manière ou d'une autre. Si tu avais, et ce sera ma dernière question, parce que là, c'est tellement fascinant, mais il faut s'arrêter. On est déjà rendu à trop de temps d'enregistrement. Si tu avais à lancer une business dans l'espace aujourd'hui avec les conditions de marché que tu connais, puis avec l'appétit que tu connais, le referais-tu? Et si oui, tu lancerais quoi?
Si c'était à refaire, évidemment, je resterais dans le lancement parce que c'est pas juste quelque chose que je trouve passionnant, mais c'est quelque chose qui est absolument stratégique. C'est extrêmement difficile d'arriver à un point où il y a quelque chose qui fonctionne, mais du moment que tu as des systèmes qui sont fonctionnels, les portes sont ouvertes, puis ça permet vraiment de coopérer avec d'autres compagnies, ça permet de vraiment... Bon, ça, c'est moi qui vends son steak, chose que j'aime, mais si on mettait le lancement de côté puis on décidait de faire autre chose... En fait, il y a immensément d'idées pour tout ce qui est collection de données à partir de l'espace pour être capable d'améliorer la vie sur Terre. Personnellement, je trouve une des choses qui serait vraiment intéressante, c'est tout ce qui peut nous permettre de mieux comprendre les enjeux de changement climatique. Parce que c'est pas juste quelque chose qui est immensément conséquentiel pour le bien-être de l'humanité, mais c'est quelque chose aussi qui va être... très, très, très profitable parce que c'est un peu nos yeux puis nos oreilles. Donc, tous les changements qu'on fait sur Terre pour améliorer, que ce soit les technologies de capture de carbone ou peu importe, tu as besoin de savoir est-ce que ces choses-là ont vraiment de l'impact. Donc, je dirais ça serait une des choses qui pourrait être pertinente. Une autre chose aussi que je trouve très intéressante, c'est l'amélioration de la productivité des agriculteurs. Donc, être capable d'avoir des données qui peuvent permettre de mieux track les champs des agriculteurs, mieux track l'humidité, les maladies, tout ça. C'est évidemment quelque chose qui est très précieux, mais aussi ça va donner beaucoup plus de marge de sécurité dans des cas un peu comme ce qu'on vient en ce moment.
C'est fascinant, Bachar, et c'est vrai que tu pourrais en parler probablement pendant des heures. Je te remercie d'en avoir parlé pendant une vingtaine de minutes avec nous aujourd'hui.
Ça me fait entièrement plaisir.
En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, je vous le rappelle, c'est 2 nouvelles que vous devez savoir si vous êtes en affaires au Québec. La Banque du Canada vise le plein emploi pour toutes les tranches de la population, quitte à passer par une période d'inflation. Je vous explique. C'est une analyse qui a été faite par le Financial Post cette semaine. qui nous dit que lors de périodes de reprise économique, il y a une certaine forme de racisme systémique et il y a d'autres biais qui font en sorte que certaines tranches de la population se trouvent défavorisées. La Banque du Canada veut éviter ça, veut donner la chance à tous de participer à la relance économique. Alors, elle décide de garder les taux d'intérêt bas le plus longtemps possible, quitte à créer une certaine période d'inflation, un risque calculé selon elle, parce que malgré le plein emploi d'avant la pandémie, l'inflation était quand même sous contrôle. Alors, pour favoriser l'inclusion, la Banque du Canada est prête à tester de nouveau les limites de l'inflation, nous dit The Financial Post. Et si vous pensez que vous aurez besoin de bureaux lorsque la pandémie sera terminée, c'est peut-être le temps de magasiner votre prochain espace ou de négocier votre prochain bail. Parce que selon la CBC, de nombreux locataires cherchent à diminuer en ce moment leur empreinte physique parce que le travail à distance risque d'être une tendance à long terme. On en a déjà parlé à l'émission. Ce qui fait en sorte que le taux d'inoccupation des espaces commerciaux est en hausse. Alors, il y a plusieurs propriétaires qui sont plus ouverts qu'avant à négocier, alors que la demande était très, très haute avant la pandémie, on se le rappelle. Mais pour combien de temps? C'est ça la question. Plusieurs croient qu'avec le vaccin et un éventuel retour à la normale, le retour au bureau pourrait revenir en force. Alors, c'est peut-être le temps de négocier en ce moment. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à Charles Prémont à la recherche et à la coordination et à Laurence et Valérie chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Thérien. Merci de nous suivre. Merci d'être là toutes les semaines et de nous écrire aussi. J'aime beaucoup vous lire. On se reparle la semaine prochaine.